Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Grand Témoin de l'année 2013. Et notre invité aujourd'hui est Théophile Bemba Foundou. Il est homme politique congolais, ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa sous Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition et actuellement il est député national. Monsieur Théophile Bemba, merci d'avoir répondu à notre invitation et meilleurs vœux.
Merci et meilleurs vœux à vous aussi.
Alors avec vous, Monsieur Théophile Bemba, on va parler de votre personne. On va vous présenter auprès des auditeurs des radios Capi. C'est vrai que Théophile Bemba, c'est une personnalité très connue à travers la République, mais ça ne nous empêche pas de parler de vous aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. On va creuser aussi dans votre vie privée, si ça vous dérange pas. C'est ça l'émission Grand Témoin. On cherche à découvrir la personne. On va parler aussi de la date du 16 janvier 2001, jour où Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République, avait été assassiné. Vous étiez gouverneur de la ville province de Kinshasa. Vous allez nous dire comment vous avez vécu ces moments-là ici à Kinshasa. Mais avant cela, commençons par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né où et comme c'était au film Mimba?
Je suis né à Popokabaka, dans le district du Kwango, où mon père travaillait, le 16 mars 1952.
Et c'est là où vous avez passé votre enfance?
Non, j'ai pas passé mon enfance là. Je crois que j'ai eu là juste le temps de naître. Et déjà à l'âge de 3 ans, je poursuivis mon enfance à Kenge, dans la ville de Kenge, où j'ai fait mon école primaire à l'école Saint-Frédéric Kayolo. Et j'ai fini mon école primaire, je fais une année dans le collège de la Place, et après je suis allé au petit séminaire Saint-Charles-Luanga à Kalonda. Donc j'ai fait près de 5 ans au petit séminaire.
Parce que vous aviez des ambitions de devenir prêtre?
Mais parce que je sentais une vocation, un appel de Dieu de pouvoir servir le peuple de ce côté-là. Finalement, à l'époque, le petit séminaire n'avait pas des humanités complètes. Il y avait des choix à faire, soit partir à Kinzambi, soit au collège de Bandundu. Mais moi, je suis venu finalement à Kinshasa, puisque les parents se trouvaient déjà à ce moment-là à Kinshasa. Et j'ai terminé mes études secondaires au collège Elikia, anciennement Saint-Joseph, ici à Sainte-Anne.
Apparemment, vous avez étudié dans des écoles de prêtres?
Effectivement, j'ai étudié dans des écoles de prêtres. C'était d'abord le prêtre de la société Verbe Divin, et puis j'étais chez les scoutistes à Saint-Joseph. Et plus tard, quand je terminerai l'université, parce qu'après j'ai fait la section littéraire, je fais une licence en chimie à la faculté des sciences.
Comment vous expliquez, c'est la littéraire, de la littéraire, et puis à l'université vous faites la chimie?
Mais à l'époque, les années 70, nous faisions un examen de maturité, et cet examen de maturité comprenait plusieurs rubriques, dont la rubrique sciences et littérature. Et cet examen permettait d'orienter les étudiants au niveau de l'université, dans les sections où on constatait, les autorités de l'université constataient qu'ils avaient suffisamment d'aptitudes. Et à ce temps-là, je pense bien qu'il y avait aussi une volonté politique du gouvernement de pouvoir orienter ceux qui avaient des aptitudes en sciences vers des études scientifiques. Alors, à l'issue des résultats de mes examens de maturité, les chanoines Plevout, qui étaient à l'époque académiques à l'Université de Kinshasa, avaient décidé que je sois orienté vers les sciences. Et j'avais essayé de résister.
Mais vous-même, vous n'aviez pas voulu faire ça.
Je n'avais pas voulu faire ça. Et je voulais bien faire le droit, ou au besoin, si j'avais des aptitudes vers les sciences, aller vers la médecine. Mais lui tenait, il dit non, vous devez faire un choix entre les mathématiques ou la chimie. Finalement, j'ai opté pour la chimie. C'était
malgré
heureux pour
vous.
Moi. Et finalement, ça m'a bien réussi.
Vous ne regrettez pas aujourd'hui?
Non, je ne le regrette pas du tout, parce qu'en étant en chimie, finalement, j'ai découvert que j'avais une vocation aussi de pouvoir m'intéresser à l'alimentation, à la vie de l'homme, aux produits qui font que finalement l'homme soit en bonne santé. Et j'avais pris l'option de faire la chimie organique, qui n'était pas loin de la vie, parce que j'avais ces ambitions de faire la médecine. J'ai fait la chimie organique, et quand j'ai fini la chimie organique...
Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que les gens ne s'alimentaient pas bien ici, que vous vous avez décidé de faire la chimie organique?
Oui, vous savez, toujours il y a... Il y a une voix intérieure qui nous dicte et souvent qu'on néglige. Et à l'époque, ma voix intérieure me dictait que je pouvais faire la chimie organique, je pouvais m'intéresser à ce domaine. Et j'avais vite développé une ambition vraiment de pouvoir approfondir la chimie de la vie, la biochimie. Et ça m'avait fort intéressé. Et j'ai pris cette option, c'était proche de la biochimie, c'était la chimie organique. À l'époque, la biochimie n'existait pas à la faculté de sciences. On a voulu même suivre le cours à la faculté de médecine, mais les professeurs qui donnaient cours à l'époque étaient rentré en Belgique, je me suis dit, avec la chimie organique, je pourrais y arriver. Et j'y suis arrivé parce que, quand j'ai fini mes études en chimie avec distinction, j'ai été retenu assistant à la faculté des sciences, mais au lieu de faire l'assistanat au département de chimie, j'ai opté de le faire au département de biologie, avec le professeur Jacques Paulus, et je me suis intéressé aux plantes alimentaires. Et nous avons commencé à travailler avec le professeur Jacques Paulus sur le pois carré africain, qu'on appelle le Psophocarpus scandens, parce que...
Utiliser des termes simples pour permettre aux auditeurs de comprendre.
C'est une légumineuse dont une des espèces était très vantée en Asie. On comparait cette légumineuse à un cornet de glace, parce que ses feuilles pouvaient être consommées, les graines, les tubercules même. Et l'Académie de sciences des États-Unis avait publié une documentation là-dessus. Et alors, avec le professeur Jacques Paulus, qui était mon superviseur, nous sommes dit, mais cette plante doit quand même pouvoir exister ici, si elle existe en Asie. Et nous sommes mis à chercher, et nous sommes tombés sur l'espèce locale, qu'on appelle Psophocarpus palustris.
Vous avez découvert ça où? Dans quelle province?
On l'a découvert ici à Kinshasa, et dans la province de Bandundu. Hein, vous savez, à Kinshasa, à l'époque, il y avait beaucoup de marécages. On a fouillé dans les marécages, on a fait des enquêtes, et finalement, on est tombé dessus. Et nous l'avons analysé, et nous avons trouvé que la feuille était riche en protéines, comme les graines. Et nous avons fait une publication et nous sommes mis à le vulgariser. Si bien que quand je finirai cette étape, finalement, j'irai faire mon doctorat en Belgique.
Vous êtes docteur là, en chimie.
Donc je vais faire le doctorat, pas évidemment dans le secteur, mais au niveau de la biochimie cellulaire. Donc j'ai poursuivi au niveau du département de biologie, aux facultés de Namur, Notre-Dame de la Paix. Là, j'ai rencontré les jésuites. À l'université des jésuites.
Encore des prêtres.
Encore des prêtres. Et j'ai fait mon doctorat là-bas, en biochimie cellulaire.
Alors, monsieur Théophile Bimba, vous êtes marié?
Ah oui, je suis marié. Oui, je suis marié à madame Koukikila Pascaline Lukoa.
Père de combien d'enfants?
Je suis père de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est la médiocrité. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la délation, je n'aime pas ce qui ne répond pas à l'éthique et à la morale.
Alors que c'est ça qu'on reproche aujourd'hui à la plupart des politiciens congolais.
Oui.
Et vous faites partie de ces politiciens.
Je fais partie de ces politiciens, c'est vrai. C'est l'ensemble de la classe politique. Mais dans cet ensemble de la classe politique, on ne peut pas dire que nous avons tous un dénominateur commun. Je crois que ça varie aussi de l'une à l'autre personne. Chacun a ses défauts, a ses faiblesses. Moi aussi, j'ai mes défauts et j'ai mes faiblesses, mais j'ai aussi mes points forts.
Alors, quel est le souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez? Vous avez beaucoup de souvenirs, c'est vrai.
Énormément.
Mais il y a sûrement un qui vous a le plus marqué.
Ben, c'est qui va le plus marqué comme souvenir. C'est la manière dont nous avons été formés au petit séminaire Saint-Charles-et-Luanga. Je suis arrivé tout jeune. J'en ai assumé la responsabilité même d'être, on l'appelait à l'époque bidel général. Donc, la responsabilité d'encadrer les autres petits séminaristes. On était à l'école, on mangeait, on allait au dortoir, on revenait, on avait du temps de travail, on a appris le travail manuel. Et ça, ça m'a beaucoup marqué de voir un peu cette façon d'organiser finalement la vie au niveau d'une communauté ou d'une collectivité. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je devais recommencer, je serais prêt à le recommencer.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Théophile Bemba Mfundu. Il est un politique congolais, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa sous Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition. Actuellement, il est député national. Théophile Bemba, vous lancez dans la politique en 90.
Je me lance.
Si je ne me trompe pas.
Exactement, ouais.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la carrière politique, à faire de la politique?
J'avais longtemps travaillé pendant près de je dis déjà près de, à l'époque, 5-6 ans dans le village. j'ai vu les gens souffrir. J'ai vécu la malnutrition des enfants. J'ai vu que ces gens avaient de besoins et qu'ils avaient besoin de répondants, de gens qui puissent quand même faire quelque chose pour eux. Et finalement, avec la vague de la démocratisation, j'avais commencé à faire aussi l'éducation civique. Et j'ai senti que cette population me portait et comptait beaucoup. À l'époque, mon ONG, qui s'appelait Gratec, utilisait une trentaine de jeunes cadres. Et c'était, nous étions pratiquement les seuls employeurs dans le coin.
Et là, c'était dans la province de Kengue.
C'était dans la province de Mandundu, au niveau du territoire de Kengue. Alors, j'ai senti qu'il y avait un besoin de cette population-là. Mais en même temps, au niveau, je dis, de notre cadre intellectuel de notre district, bon nombre d'entre eux se sont posés plusieurs questions aussi à la veille, après le discours de la démocratie du maréchal Mobutu, se disant, mais où va le Congo? Qu'est-ce que nous devenons? Pendant près de 50 ans, près de 30 ans, on n'a rien vu venir. Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Et finalement, les intellectuels se sont réunis autour d'une organisation qui s'appelait CRIC, Cercles Intellectuels du Congo. Et j'y étais invité, j'ai participé aux réflexions. Et finalement, l'option avait été levée pour que nous engageons dans l'opposition radicale. De toute façon, la dictature, on la rejetait. Et nous voulions le changement. Et ce changement nous inscrivait au niveau de l'opposition radicale. Et j'étais parmi, à l'époque, les cadres de chez nous qui avaient milité pour cette option. Et finalement, nous y sommes lancés.
Vous étiez vice-président du parti, je crois, PNRD.
Nous y sommes. PNRD. Exactement. À l'époque, il y a le professeur Koutoumissa qui avait pris l'initiative de créer un parti qu'il appelait PNR. Parti national du renouveau. Et il y avait d'autre part le professeur Lapika qui avait créé un autre parti qu'il appelait PND, Parti national du développement. Et au niveau de cette cercle de réflexion, les intellectuels du Congo avaient milité pour que, si nous voulions converger dans la même direction, qu'il y ait une fusion de ces deux partis. Et j'étais celui qui était chargé d'aller consulter, puisque les deux étaient des collègues professeurs, d'aller les consulter pour le mettre ensemble. Et Dieu merci, ça a marché.
Et vous avez réussi à les mettre ensemble.
Ils se sont mis ensemble et ils ont formé le PNRD. Et c'est seulement à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils m'ont coopté au niveau des comités directeurs, comme vice-président. Et nous avons œuvré. Et il faut avouer que par le travail que je faisais au niveau de la province de Bandundu, parce que j'ai circulé à Kikwit, dans le Kwilu, dans le Kwango, j'étais un peu partout. Et donc j'étais connu aussi de nos aînés politiques. Le fait qu'Amitatou Massamba, Mongul Diaka, ils me connaissaient. Et finalement, ils m'ont demandé de les approcher aussi. On a eu quelques discussions avec eux. Et je me réveillerai un jour au matin, alors que le président Mobutu avait déjà nommé quelques jours avant M. Étienne Tshisekedi Premier ministre. Je me réveillerai après la chute, la révocation de M. Étienne Tshisekedi, avec la nomination de M. Mongul Diaka comme Premier ministre.
On vous a proposé un poste ministériel.
Et Mongul Diaka est nommé Premier ministre. Et un jour, je me réveille, je suis à la télévision, je dis, voilà, Mbemba, vous êtes nommé ministre de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Je dis, tiens, mais moi je n'ai jamais fait une seule démarche pour ça. D'où ça vient?
Vous avez refusé ce poste.
Et bien entendu, à l'époque, ma vision s'inscrivait dans la voie du changement.
Est-ce que c'est parce que vous avez eu des pressions ou bien vous avez refusé? Ça venait vraiment de vous-même, ce refus-là, d'occuper ces postes-là?
Il n'y avait aucune pression. Nous étions dans un jeune parti, là. Il n'y avait pas de pression et de personne. Au contraire, la pression que j'avais eue, c'est pour accepter les postes. Et à l'époque, d'ailleurs, j'étais très peu connu de l'opposition. J'étais pas du tout connu, très peu, je crois, pas du tout même, je crois, de M. Tshisekedi, ni de M. Kibasa Maliba, de tous ceux, les figures de proue de l'opposition. Mais mon intime conviction estimait qu'il fallait que les choses changent dans le pays. Et pour que ça change, donc, on devait plus se mettre à jouer le jeu que voulait faire jouer le président Mobutu à l'époque. Et donc, il n'était pas question de chercher à affaiblir l'opposition radicale.
Quoi la réaction de M. Mongul Diaka quand vous aviez refusé ce poste?
Ah oui, quand j'ai refusé, il a fulminé. Il a d'ailleurs mobilisé tous mes aînés du Congo. Hein, à l'époque, il y avait le Fema Futa Kisola, il y avait M. Kibabu, Madia Tanzao, il y avait le vieux Christophe Mbosso. Et tous ces aînés-là sont mobilisés et finalement, ils ont presque été me chercher manu militari, m'amener chez notre doyen qui était Mafuta Kisola pour me convaincre d'accepter ce poste. Et dès là, je vais être amené jusqu'au niveau du Grand Hôtel, à l'époque intercontinental. Et c'est là que je rencontrerai le Premier ministre et son équipe pour dire que, écoutez, monsieur, vous devez accepter, vous n'avez pas le choix. Comme il est devant Doundou, avec toutes les raisons que vous pouvez imaginer et tous les appâts que vous pouvez imaginer. Et alors, j'ai dit, écoutez, bon, dans tout le cas, je vous ai entendu, laissez-moi rentrer à la maison. Et le lendemain, on devait avoir prestation de serment en télé. Et bon, il devait me ramener tout le nécessaire, le soir, voiture, et tout ce que vous pouvez imaginer, pour aller à la prestation de serment le lendemain. Et bien entendu, quand je suis rentré à la maison, puisque l'option était levée au niveau, à mon niveau, et avec l'appui de toute ma famille, particulièrement mon épouse, Pascal Gogwikila, et nous avons pris l'option de disparaître pendant un moment. Et nous avons disparu pendant près de trois mois.
Vous avez quitté le pays?
On a quitté notre milieu d'habituel. Mais nous étions dans le pays. Nous sommes cachés pendant près de trois mois. Et évidemment, ces refus avaient fait la joie, évidemment, de l'opposition, avait rencontré les faveurs de l'opposition et de M. Tien Tshisekedi lui-même, si bien que l'opposition se mobilisait pour me soutenir. Ils ont fait des déclarations pour qu'on me laisse tranquille, etc. Et bon, entre-temps, les contacts ont été établis et j'avais même fait l'occasion des informations au niveau de la presse belge, parce que j'avais aussi des amis en Belgique, particulièrement à Namur, le professeur José Remacle et tous ses amis qui me soutenaient. Hein. Et aussi, on fait des démarches, ils ont vu les hommes politiques, ils ont vu Colette Bachmann, ils ont publié dans la presse, vous dites qu'on devait me laisser libre, c'était l'heure de la démocratie, etc. Et finalement, au bout d'un certain temps, ça s'est calmé. Et j'ai eu des assurances comme quoi qu'il n'y aura plus de problème, que je pouvais sortir. Et je vais rappeler aussi que quand j'avais été amené au Grand Hôtel, mon épouse, qui attendait de famille d'ailleurs à l'époque, est partie de la maison. J'habitais au plateau. Est partie de la maison pour le siège de l'opposition radicale chez le Feu Kibasa Maliba, hein, où il a dit, ah, voilà, mon mari a été enlevé, on l'a amené, etc. Il faut faire tout pour qu'il soit retrouvé et que quelque chose de mauvais lui et de pire ne lui arrive pas. Donc tout ce soutien fait qu'au bout d'un temps, finalement, j'ai petit à petit retrouvé la liberté.
Et vous avez continué à combattre le régime.
Et j'ai continué à combattre le régime. Je me suis retrouvé membre de la Conférence nationale souveraine. Je participais à la Conférence nationale souveraine. J'étais d'ailleurs au bureau de M. Mutombo et de M. Kalonji Mutambai, dans le bureau provisoire comme assesseur. Et finalement, lorsque il s'agira des élections du Premier ministre à la Conférence nationale souveraine, M. Tshisekedi sera élu Premier ministre et là aussi, lui, évidemment, lèvera l'option de me nommer comme ministre de la recherche scientifique et technologique. Et donc, j'ai travaillé pendant trois mois avec lui comme avec ministre de la recherche scientifique et technologique. Et évidemment, au bout de trois mois, Mobutu nous a chassés et j'ai continué à l'opposition. Et j'ai continué aussi avec mon travail de développement.
Vous avez été porte-parole même de l'opposition à un certain moment.
J'étais rapporteur. J'étais rapporteur de l'opposition. J'étais gratifié de cette façon-là. En fait, quand je suis sorti de mon maquis, je suis revenu à l'opposition, j'ai été désigné rapporteur de l'opposition radicale. C'est de cette manière-là que je fais partie de la délégation qui nous a amené à Guadeloupe avec le Feu Kibasa Maliba, l'actuel ministre Mende et d'autres. Nous sommes allés rencontrer Monsieur Mobutu pour donner le point de vue à l'époque du premier ministre Tshisekedi, étant entendu qu'il était question à ce moment-là, parce qu'entre-temps on avait nommé un autre premier ministre, je crois que c'était Kengo, et sur base de négociations avec Monsieur Bemba, finalement on promettait à Monsieur Tshisekedi qu'il allait rentrer, et finalement une délégation était partie pour ce faire, hein, bon, on est revenu, et voilà, les choses ont continué jusqu'au moment de la libération du pays par l'AFDL.
Il vous arrive d'écouter la musique, M. Théophile Bimba?
Ah oui, bien sûr.
Quel genre de musique?
Bon, j'écoute tout le genre, mais je suis un fan des Aiko Langalanga.
Vous dansez aussi un peu?
Oui, je danse. Parfois, il y a des gens qui disent que je danse bien.
Quelle chanson de Aiko vous aimez bien écouter, qui vous fait du bien? Les anciens succès des Aiko?
Les anciens succès des Aiko. J'aime bien Hello. Hello, Atemote, man, Tsoka. Voilà, j'aime bien ça.
D'accord, on va vous faire plaisir, chez Théophile Bemba, en vous proposant cette chanson des Aiko.
Tofanda na kiso, lopola toni kani. Loka maloba, elo, azala kiko pesa kai. Pena teki mote, manga kalo saye. Na ba vacances a benga ga infiancé Na me mie na ba boti kwa baye baye Na zimo bali, moya ko balangai Moya ko sale langa, na veni Moyo toko bota na e banaga To banda na biso, loko la tolikani Yoka malo bagelo, hazala kiko pesa ngai Pena chaki monte manga kalo saye Kaya na baba kwasa benga kai fiance Na memie na babo tipo baye baye Na zimo bali, moya kwa bala ngai Moya kwa sale la ngai, na veni Moyo toko bota na yeba naga Kadishi jo banjuku jo kadishi, bande koboyoka sukari kamo sama, kero na siamo tema soka bala, azoya ye mwasi, kuna na poto, abota na eba na baboti na zaipe ba eba, kero motema kuni osari kamo ye. Bolingo pesa nga miso, na mi pesa ki mo bimba Kespo na nga yonso, se pa ina ye Lelo yonka na zemi, elo asuto ni kai Banda ta fotokopi na yo mwano na kobosa Nani ako boko na ye, nani ako benga papayo Oyo soni yo sali kai, na papoti pena fami Soni pena banika Oyo tokola, akona kumisaka yo Oya lipala, lelo tosuki wapi Nyonse ya maloza, okelo batijo lino Oyo soni yo sanikai, nababoti pena pami Soni pena panika Oyo tokola, akona kumisaka yo Oya lipala Eloto suki wapi, yo se ama lopa Okelo batijo, elo Elo batijo, elo Eli sutami, elo batijo, elo Pepe manu aku, elo batijo, elo
Eh, de mal à moi, et des dents Ele é agora
Kapi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Théophile Bemba Mfundu. Il est un politique congolais, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa sous Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition. Actuellement, il est député national. En 97, Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Il renverse le régime de Mobutu. Vous le connaissiez personnellement?
J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas particulièrement. Comme depuis quelques années, j'ai commencé quand même à suivre l'activité politique, je lisais aussi, et donc j'avais de ces informations. Mais je n'avais pas un contact avec lui. Mais j'imagine que avec mon activisme politique, probablement que lui doit avoir eu des informations sur moi.
Comment vous vous retrouvez à la tête de la ville-province de Kinshasa comme gouverneur?
Ah, comment je me retrouve à la tête de la ville-province de Kinshasa? Ouais. Il y a eu un contact. À l'époque, je crois que c'était l'occasion de le dire. Parfois on entend des gens dire, mais comment il était avec à l'IDPS, il était avec... Et je crois que vous avez vu que j'étais pas l'IDPS, j'étais dans la jeune partie qui était alliée à l'IDPS. Ouais. Mais j'ai soutenu l'action, l'opposition radicale, et donc de M. Tshisekedi. Avant l'entrée de l'AFDL, nous qui étions restés jusqu'au bout, nous avons continué à travailler, vous savez, nous avons fait des meetings. Moi-même, je suis descendu plusieurs fois à Kenge, dans le coin, pour essayer de préparer les gens à accueillir l'avènement de l'AFDL. Et finalement, quand ils entrent, il y a une réunion au niveau de l'opposition et il se décidera qu'écoutez, pour le moment, comme la libération est là, tous les partis sont libres. Ceux qui sont partis sont déjà partis. Que les uns et les autres de ce parti prennent le contact, chacun comme il entend. On était laissé un peu comme ça sur la route. Et finalement, j'ai eu un contact avec... le président de la République, Laurent Désiré Kabila, qui était à la recherche, je crois qu'il faisait des consultations pour un gouverneur, pour la ville de Kinshasa, et je me suis retrouvé sur la liste.
Il y avait plusieurs candidats.
Ah, il y avait plusieurs candidats.
Pourquoi seulement vous?
Je sais pas pourquoi moi, certainement Dieu le sait, et c'est lui le savait, mais ce que j'ai senti, il m'a invité par deux fois. La première fois, c'était pour mieux me connaître. Qu'est-ce que je faisais, mes activités, etc. Quelle était ma vision, quelle était la vision de notre jeune parti à l'époque. Je lui ai expliqué et j'ai senti que le courant est passé net et que finalement, lui-même l'a dit, voyez, Monsieur Bemba, toute cette lutte que vous avez menée, c'est pour qu'on reconstruise le pays. Et aujourd'hui, que nous sommes là, que la dictature est finie, il n'y a plus de raison de pouvoir rester encore à l'opposition. Je crois que nous devons nous mettre ensemble pour reconstruire le pays. Quelques temps plus tard, il me rappellera, précisément entre le 17 mai, il m'a rappelé, je crois, vers fin mai, il m'a rappelé au mois de juin, et puis au mois de juillet. La deuxième fois, on a encore des « qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous voyez la gestion du pays ?» Là, pour voir un peu, en fait, un peu sonder la vision que j'avais sur la gouvernance et la démocratie, etc. C'est que j'ai compris. Et la troisième fois, c'était le 8 août 1997. Le président de la République veut voir. Alors, je suis venu au Palais de la Nation, et il m'a reçu. Il m'a souri, il dit écoutez Monsieur Bemba, j'ai
décidé pour vous annoncer votre
nomination comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Je dois vous avouer que ça m'a fait un peu un choc. J'ai dit ville de Kinshasa, parce que cette ville à ce moment-là, vous savez qu'entre temps il y avait un désaccord entre le président de la République et l'UDPS qui faisait partie de l'opposition radicale d'où je venais. Et donc il y avait des tensions, l'UDPS tentait d'organiser des manifestations. Et puis bon, je vous avouais que j'avais milité, mais je n'avais pas encore seulement d'expérience dans la gestion politique. J'avais refusé la première fois et j'ai travaillé pendant 3 mois au ministère de la recherche scientifique. Et là, on me confie à la grande ville de Kinshasa qui bouillonnait. Et il a senti que j'avais un peu peur. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, la ville de Kinshasa. Et tout de suite, il m'a même pas laissé le temps de lui répondre. Il me dit, non, n'aie pas peur. Je sais que, au regard de tout ce que tu m'as dit, et de tout ce que tu as déjà fait, tu vas t'en sortir, tu es capable. Et tu peux compter sur mon appui. Et ça m'a, du coup, soulagé. J'ai quitté à 19h, le palais de la Nation, et j'arrivais le 20h chez moi. Et,
vous avez annoncé la nouvelle.
L'ordonnance tombait. Le temps d'en parler à mon épouse, et l'ordonnance tombait.
Et là, votre épouse était d'accord pour que vous puissiez...
Mon épouse était complètement d'accord. Il dit, ça c'est la voie du changement, c'est la voie de Dieu, c'est la voie du peuple.
Mais vous-même à la tête de la ville-province de Kinshasa, je parais que c'était difficile au début. Est-ce que vous vous êtes senti facilement de gérer une
situation? Je décidais de travailler comme manager. D'abord, avant de voir la politique proprement dite. Et comme j'avais une expérience de gestion dans le domaine des organisations non gouvernementales, c'est comme ça que je viens en fait de la société civile. J'avais une expérience de gestion, j'avais déjà suivi des tas de formations, j'ai tenté d'expliquer, d'appliquer ce principe de gestion. Et j'ai décidé de travailler avec l'administration que j'avais trouvée sur place. Et comme je bénéficiais de l'appui du chef de l'État, et donc, j'ai décidé aussi de communiquer suffisamment avec lui, de lui faire part de toutes les préoccupations de la ville.
Et vous étiez devenu très proche.
J'étais très proche. Parce que ce que nous avons fait, c'est quoi? Au niveau de la ville, nous avons sorti un plan, en fait, un peu de développement de la ville pendant les 5 ans à venir. Et après des séminaires que nous avons fait avec des fonctionnaires, c'était au Centre Bondeco, on a sorti un document. J'allais discuter de ce document avec le président de la République, qui m'a donné les quitus en me disant « focalise tes priorités sur l'assainissement de la ville, sur la sécurité et l'ordre public, comme on n'a pas suffisamment de moyens ». Et c'est ce que nous avons fait, et il a appuyé lui-même personnellement cette action. Et vous avez vu, à l'époque, on appelait Monsieur Pelouse, même, il y a des gens, il y a eu des chenilles qui étaient sorties et les gens s'en nourrissaient. Donc, la pelouse commençait à reprendre et avait une certaine verdure. Ça même, l'objet des publications au niveau de Jeune Afrique et tout. Bref, ça redonnait le goût du travail, aux gens.
Alors, vous êtes resté à la tête de la ville-province de Kinshasa de 97 à 2001. Le 16 janvier, on assassine Laurent Désiré Kabila. Vous étiez gouverneur de la province, de la ville-province de Kinshasa. Comment vous avez vécu ce moment-là? Vous étiez où? Vous vous trouvez où en ce moment-là?
Je me trouvais en fait en télé. J'étais dans une activité comme gouverneur de la ville avec les pêcheurs et je crois en collaboration avec le ministère de l'Agriculture de l'époque. Et je reçois l'information, ce n'est pas comme Zemmour, l'information que je reçois, il y a eu des coups de feu au palais de marbre. Et donc il y a quelque chose de grave probablement qui est arrivé. J'étais stupéfait, et je me demandais mais qu'est-ce qui va se passer? Je voyais le poids de toute la responsabilité que j'avais, parce que n'oubliez pas qu'entre temps, non seulement que j'étais gouverneur, j'étais de ceux à qui, parmi ceux à qui nous avait demandé à ce qu'on installe les comités des pouvoirs populaires, lorsqu'il y a eu mutation de l'AFDEL en comité des pouvoirs populaires. Et j'étais au bureau politique, finalement, du comité des pouvoirs populaires. Donc, j'étais suffisamment proche. Ça m'a fait tellement mal. J'étais vraiment estomaqué. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer?
Vous aviez eu peur aussi?
J'étais inquiet, une grosse inquiétude, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, si quelque chose de pire est arrivé ou arrive. Et du coup, j'ai arrêté l'activité, j'ai pris la voiture, et on est vite rentré, en cours de route, bien entendu. Les services de renseignement au niveau de la ville m'informaient de l'évolution de la situation. Et dès là, j'ai pris contact avec le ministre de l'Intérieur, le feu Gaëtan Kakouji, et qui nous convoqua d'ailleurs dans une réunion au soir au niveau de son bureau. Nous nous sommes retrouvés à cette réunion. Nous avons eu l'information qu'effectivement il y avait eu le coup de feu et que M.Z. était atteint et qu'au moment où nous étions là, il était à l'hôpital en train d'être soigné. Évidemment, la tension était grande dans la ville. Et c'est des moments où, quand on est responsable, on se dit franchement, il n'y a pas que de bonheur dans les fonctions.
Vraiment. J'ai parlé que c'était le moment le pire.
Oui, parce que, écoute, vous ne savez pas, mais vous devez gérer la situation. Parce qu'il s'agit d'un président de la République qui était touché. Combien du monde qu'il y avait derrière.
Et la rumeur était déjà partie.
Et la rumeur était partie. Et il avait déjà conclu la population du Congo, c'est pas seulement du Congo entier, mais en particulier des Kinshasa qu'il avait déjà adopté. C'est vraiment des moments très difficiles.
Et ce jour-là, jusqu'au soir, vous n'aviez pas la bonne version de ce qui s'était passé au palais des marbres?
Bon, j'avais une version, et reçue du ministre de l'Intérieur. Et donc, Mais il fallait suivre l'évolution. Et nous avons attendu jusqu'au moment où, primo, le gouvernement devait se réunir pour à cette occasion, effectivement, au niveau de la réunion du gouvernement, que le président de la République, Joseph Kabila, qui prenait la conduite des affaires à l'État pendant ces temps, puisse présider ce conseil. Et il a présidé la réunion, il a annoncé, il a donné l'information, tout ce qui s'est passé là où nous étions partis. Et à l'époque, c'est M. Sakombi qui était ministre de l'information. Et le gouvernement a donné des directives pour la gestion de l'événement. Et nous sommes sortis, M. Sakombi, qui était ministre de l'Information, et moi, ministre gouverneur de la ville. Nous avons géré la situation.
Vous avez géré la situation.
Conformément aux directives nous données par le gouvernement.
En ce moment-là, le président était déjà mort. Vous avez géré l'information à votre niveau.
Nous avons géré
c'était
l'information.
Pour calmer la population.
Nous avons géré l'information au regard des directives nous données par le gouvernement, parce que il était important, effectivement, que l'opinion, tant au niveau national, surtout au niveau national, soit gérée, que la population elle-même, la sécurité, l'ordre public, tout cela devait être géré. Et nous avons, je crois, fait notre travail. Et finalement, il sera annoncé plus tard la mort de Mzé. Et nous allons nous mettre dans les comités qui avaient en charge
donc organiser
le funérailles.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris vraiment qu'il était mort, qu'il était parti?
J'ai senti une grande perte pour le pays. J'ai senti que le Congo venait de perdre un grand patriote qui avait une grande vision pour le pays et qui luttait pour le peuple congolais et qui était prêt à sacrifier de sa vie. Parce que plus d'une fois, dans plusieurs réunions, et il nous avait dit, je sens que quelque chose va m'arriver. Mais même si quelque chose m'arrive, ne lâchez pas. Ne trahissez pas votre pays. Ne trahissez pas le Congo. Et j'ai éprouvé une grande compassion pour lui-même, pour l'ensemble de la famille. Mais en même temps, il faut avouer que ceci a été quelque part allégé. Parce que pour la conduite des affaires, c'était son fils qui prenait les rênes des affaires, le président Joseph Kabila.
Et qui vous a nommé directeur des cabinets, si je ne me trompe pas.
Effectivement, j'ai été nommé directeur des cabinets, je crois, le 13 mars. J'ai nommé directeur des cabinets. Et
avec lui, vous vous connaissez, on lui a parlé de vous.
Paul, vous savez que...
Pour nommer quelqu'un directeur des cabinets, il faut que cette personne soit quand même proche de vous.
Vous savez, de 1997 jusqu'à la mort de Mzé, quand même un certain nombre d'années sont écoulées. Le président Joseph Kabila a vécu aussi dans cette ville. Certainement, il doit avoir suivi aussi la gestion de la ville. Peut-être que nous n'avions pas, c'est pas des relations personnelles, mais comme gouverneur de la ville, certainement, il voyait la manière dont je travaillais. Mais il faut avouer aussi que j'étais parmi les doyens des gouverneurs de Mzé. Le doyen dans ce sens qu'à un certain moment, beaucoup de ceux qui avaient été nommés en cours de route avaient perdu leur fonction, d'autres sont arrivés. Et donc, je restais plus ou moins celui qui était comme nommé, comme gouverneur. Et à ce moment-là, quand il avait nommé un gouverneur, il lui demandait d'écouter, allez voir le gouverneur de la ville de Kinshasa, parlez un peu avec lui, il va vous dire comment il dirige sa ville, etc., et suivez son exemple. Je crois que tous ces éléments conjugués, au regard des consultations que le président de la République lui-même avait faites, il a levé l'option de me nommer directeur de cabinet.
Vous n'êtes pas resté longtemps comme directeur de cabinet du président Joseph Kabila?
J'ai fait près d'un an, je crois que c'est au mois d'octobre, je crois, ou septembre, que finalement il a été mis fin à mes fonctions comme directeur de cabinet. J'ai fait plus d'un an, je crois un an et demi.
Pour devenir
ministre de l'Intérieur. Pendant que j'assumais cette fonction, évidemment, il y a entre-temps aussi le dialogue intercongolais qui avait commencé. J'étais dans la délégation du gouvernement pour aller discuter avec le mouvement politico-militaire. Et j'étais ministre de l'Intérieur et...
Jusqu'en
2006 Ah oui, pratiquement jusqu'en 2006. Parce que, oui, d'abord, nommé pour les comptes du gouvernement de la République, alors qu'il y avait encore des mouvements politico-militaires. Mais j'ai prolongé ce mandat tout le long de la transition jusqu'en 2006, jusqu'aux élections.
Aux élections, vous avez été élu député.
J'ai été élu député national. J'ai été élu député national, mais j'étais pas très content de cette élection.
Pourquoi ?
Ben, parce que moi-même, d'abord, je m'attendais à mieux que ça. J'ai été élu, mais l'expression du suffrage n'était pas celle que j'attendais. Et de deux, parce que j'avais espéré quand même un bon score pour le président de la République, qui à l'époque n'avait pas été bien élu, dans le Bandundu tout entier. Et donc tout ceci aussi m'a fait beaucoup de remords, beaucoup de peine. Mais j'ai été élu député et j'ai passé mon mandat à l'Assemblée nationale.
Uh-huh, vous avez encore été réélu en 2011.
Alors là, j'ai été réélu en 2011.
Vous l'avez pas chômé hein, depuis 97.
Hein, j'ai été élu en 2011. Alors là, de la manière que je voulais, et je crois que ça aurait pu être mieux en d'autres circonstances, mais j'ai été vraiment voté massivement par la population. J'étais leur candidat.
On dit que vous avez bourré aussi les urnes, monsieur.
Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment dans la transparence totale. Dans la transparence totale.
Et donc vous nous confirmez qu'il n'y avait pas eu des tricheries.
Pas du tout. Alors, mon Dieu me voit, je suis chrétien, pratiquant. Il n'y a pas du tout. C'est vraiment un, j'ai été proclamé avec 26 600 voix. Je pense que j'aurais pu me mériter, ça je vous le dis. ça vous pouvez interroger, là c'est clair. Même mes adversaires le plus farouche ont reconnu ma victoire. Même le plus farouche.
Alors nous sommes à la fin de notre entretien, monsieur Théophile Bemba. C'est vrai que c'est 16 janvier, on va célébrer le 12e anniversaire sa mort. Qu'est-ce que vous gardez de Laurent Désiré Kabila?
Laurent Désiré Kabila, c'est toute une école, c'est un grand patriote. L'amour qu'il faut avoir pour son pays, pour son prochain, pour son concitoyen. Je garde de lui sa vision d'auto-prise en charge de la population par elle-même. J'ai aussi beaucoup retenu de lui quelqu'un qui aimait la justice. Alors, réellement, c'est une grande perte que notre pays a connue.
Monsieur Théophile Bemba, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre émission Le Grand Témoin. Encore une fois, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous aussi, et que Dieu vous bénisse et vous accompagne vos actions tout le long de l'année 2013.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que Grand Témoin a reçu pour vous Théophile Bemba Fundu, homme politique congolais, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa sous Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition, et actuellement il est député national. Merci à Patrick Kiasonga, qui était à la technique au micro, Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.